watching a bird fly. You don't know where he'll go. Get your freedom anyway. And you'll see him.
On est à nouveau en confinement, en reconfinement, pour 28 jours. Seulement 28 jours, on l'espère. Et ça nous envoie bien, bien des émotions. Mais en attendant, on peut toujours se retourner vers les vues. Alors, re-bienvenue au Voyeur de vues, avec moi-même, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose. Ben, on est reconfinés, donc les cinémas ont refermé.
Mm-hmm.
Donc, ce qui m'a valu de devoir recalibrer quel film j'allais parler aujourd'hui, parce que j'allais originalement parler des films qui sortaient vendredi au cinéma. Soit On the Rocks et Souterrain, I guess, mais Souterrain, c'est la semaine prochaine. En tout cas, j'allais parler des films qui s'en venaient.
Anyways, les participants d'OD ont vu Souterrain, fait que peut-être qu'en sortant, mettons, Carl avec un C ou Elodie...
Fuck Carl avec un C. Si Carl avec un C nous écoute en ce moment, man, je te méprise. T'as pas le droit d'être jambon même, esti, pis d'être dans la vie publique, là. Même juste aller à l'épicerie, genre. Tu gardes un jambon même under lock and key. Genre, ça devrait pas être vu par le monde.
En tout cas, mais bref, c'est ça, il y a ces gens-là qui vont avoir vu Souterrain. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment... tu sais, c'est un bummer justement d'avoir les cinémas qui, à preuve du contraire, étaient dans des établissements qui faisaient ce qui était nécessaire pour être en sécurité.
Selon ce qu'on a entendu, là, tu sais, mm-hmm. je veux dire, il n'y a pas eu d'éclosion, à ce que je sache, dans un cinéma. Mais ensuite, en même temps, je sais pas pourquoi ils ont banni les cinémas, pour vrai, genre, c'est... Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais... Faut dire que ça allait pas super bien, pour autant, tu sais, avec les cinémas ouverts. Hein.
Ouais, non, c'est
comme clair. Dans le sens que pas beaucoup de monde allait au cinéma, tu sais, puis... Ça a bien fait pour certains films, tu sais, comme... La déesse des mouches à feu ou Nadia Butterfly, qui ont eu comme... un haut placement dans le top 5 qu'il aurait jamais eu dans une semaine habituelle. Mais c'est quand même... Ça, c'est du silver lining en esti, là, de dire... En tout cas, je sais pas ce qui va arriver. C'est pas mal déprimant. Mais là, l'important, c'est de pas faire de marde là, pendant 28 jours. Pis,
Ouais, c'est se tenir tranquille à la maison et d'écouter les vues. Et les voyeurs de vues seront vos guides à travers les vues, des suggestions de vues, quoi écouter, quoi ne pas écouter. Ou ben, dans le fond, écoutez-les si ça vous tente, là. Faut pas se fier juste à nous autres, dans le fond. Tu sais, si on dit qu'un film est de la crotte, puis que vous décidez de l'écouter puis vous l'aimez, c'est ça qui compte. Je veux dire, oui, nous, c'est juste notre opinion, là.
C'est important aussi de, tu sais, si nous autres... Moi, je dis quelque chose à propos d'un film que je trouve que c'est vraiment bon, puis vous autres, ça vous tente pas de le regarder, forcez-vous pas à le regarder parce que j'ai dit que c'était bon, là. Ça donne à rien. Personne sort gagnant de ça, à part, j'imagine, le monde qui ont fait le film, vu qu'ils ont fait peut-être
un clic.
De l'argent. Ouais, un clic ou un 3$ sur iTunes, quelque chose.
Exactement. Allons vers les vues. Parlons des belles vues. Mais juste avant ça, oui, en d'autres actualités cinéma, ça a été dit la semaine passée, Black Widow s'en va en 2021. Ainsi, je pense que Wonder Woman aussi, je m'en souviens plus, mais je crois que oui aussi. Fait qu'il nous reste juste un autre Hercule Poirot de Kenneth Branagh qui est supposé sortir en novembre, que ça, je permets-moi d'en douter.
Ouais, puis le Bond aussi, il est pas encore, ils l'ont pas tassé, le Bond.
Ils l'ont pas tassé, mais ça doit... C'est sûr
que ça arrivera pas, là, mais même le Kenneth Branagh, tu sais, je veux dire, il y aura... Déjà, au mois d'octobre, il y avait aucune grosse sortie de planifiée, tu sais, même des studios, là.
Mm-hmm.
Fait que... T'sais, ailleurs, mettons, il est cinéma. Parce que là, pas tout le monde qui nous écoute non plus dans une zone rouge, donc pas tout le monde qui nous écoute est reconfiné. Fait que, tu sais, ça se peut que, whatever, tu restes en Mauricie, whatever, je sais pas trop où ce que c'est pas fermé, mais. Puis que ton cinéma reçoive encore des films, mais tu vas pas recevoir Black Widow ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a rien de ça qui va arriver.
Ça serait vraiment sweet, genre, que la seule place en Amérique du Nord, tu peux voir Black Widow, c'est un genre de. Pas un Guzzo, mais un cinéma de Mauricie. Genre, ouais. tu vas au Paramount à Rouen, puis là, tu peux écouter Black Widow si tu te rends, là.
Ben, il avait fait ça avec, je pense, avec Antigone. Pour qu'Antigone puisse être éligible aux Oscars, il avait sorti, je pense, à Gaspé, au cinéma à Gaspé. Bon, mais tu sais, une semaine super longtemps avant la vraie sortie pour que ça puisse être éligible, puis que ça s'est rendu jusqu'à le shortlist. Fait. Ça peut être utile, mais je pense que c'est pas. Tu sais, quand j'étais un ado, il y avait le cinéma à Chicoutimi, qui a passé un film, je pense, ça s'appelle. C'est un film hollandais, ça s'appelle Gloops, je suis un poisson. Ça s'appelle peut-être Fish Story en anglais. Pis ça l'a passé pendant au moins un an, sinon plus qu'un an, une fois par semaine, il y avait Gloops, je suis un poisson, qui avait clairement été booké à un contrat par rapport. Tu sais, qu'ils ont dit, on vous donne ça vraiment pas cher, mais il faut que vous fassiez passer pendant un an. Puis le cinéma a dit, ouais, bonne idée, puis la manée était qu'on peut plus se débarrasser de Gloops, je suis un poisson. C'est sûr que personne y allait, tu sais. C'était le curse de Gloops, je suis un poisson.
Fait que comment de visionnement t'es allé? Combien?
J'ai jamais vu Gloops, je suis un poisson. Okay. Ça reste comme un inside avec mon frère. Gloops, je suis un poisson, c'est comme t'sais, quelqu'un qui reste trop longtemps à un party. Là. C'est un Gloops, je suis un poisson. Mais c'est ça. J'ai pas vu. Peut-être qu'on pourrait faire un voyeur de vue sur Gloops, je suis un poisson.
Peut-être un jour. Mais là aussi, à travers ça, tu me confies tantôt, Alex, que là t'es... Tu nourris la machine, là. La machine à film, la machine à vue.
Ouais.
Est activée, puis là, tu dis que t'as écouté 3 films aujourd'hui, puis t'en allais sur ton 4e.
Je m'enligne pour 4, là. Puis, OK. C'est ce que j'espère qui va arriver.
Fait comment tu te sens, là? Comment tu feels, là?
Que... Bien, ça fait longtemps, Nasty, que j'ai pas fait ça. Tu sais, je veux dire, la dernière fois que j'ai fait ça, réellement, ça devait être à TIFF l'année passée, tu sais. Puis ça, c'était 4 films dans un cinéma, ou peut-être 3 films dans un cinéma, puis un screener à maison, genre. Mais tu sais, chez nous, juste de même, regarder 4 films, je sais pas dans la fois que ça arrivait. Là, j'ai commencé à avoir mal aux yeux, je vais te dire. Maintenant que j'y pense, je commence à avoir mal aux yeux. Mais ça, c'est parce que là, on va en parler tout à l'heure, mais le film qu'on regarde cette semaine, le film de la semaine, est tout de même long.
Mm-hmm.
Je me suis levé à matin quand même tard aussi, plus tard que je me lève d'habitude. Fait que là, j'ai fait fuck, est-ce qu'il faut que je commence à écouter ça? Puis. Une fois que c'était parti, c'était comme un peu courir. Je suis comme, tu sais, j'ai du bon momentum, on va continuer, je vais pas arrêter. Je claquais un autre film. Puis là, les voyeurs de vue font un petit break, parce que je vais parler de films, puis après ça, je vais retourner regarder des films.
Tu retournes, c'est quel film que t'écoutes?
Ben là, je viens juste de finir The Boys in the Band, la version de 1970.
Oui, parce que y a une nouvelle version qui sort, exact, sur Netflix, hein, c'est ça?
Exact. Puis là, je voulais, vu que je connaissais rien là-dedans, puis je connaissais pas... la pièce du tout, ben je voulais regarder l'original avant de le regarder puis de faire un review. Puis là, je me demande si je vais pas juste les claquer direct un après l'autre,
mm-hmm,
ou je vais me mettre quelque chose pour changer un peu le... Puis là, je te dirais que vu la deuxième heure de The Boys in the Band, je vais peut-être me donner un buffer entre les deux parce que c'est plutôt... En tout cas, je vais peut-être en parler...
Dans une
peut-être que je devrais attendre la semaine prochaine puis parler des deux en même temps, là, parce que là, je ne l'ai pas regardé encore, fait que ça ne donne à rien de parler du nouveau.
OK. Fait qu'on va... Ben, rentrons dans le vif du sujet, nos films de la semaine. Moi, j'ai commencé... avec un film d'animation qui est sorti tout récemment, en début septembre, qui s'appelle un film animé de DC Comics, un DC Universe Movie, comme ils appellent maintenant, Superman, The Man of Tomorrow. Les gens qui nous écoutent ici, probablement qu'ils viennent de Trois-Bières, mais ceux qui ne viennent pas de Trois-Bières, je vous explique que Superman est mon personnage fictif préféré. Et, tu sais, moi j'aime, tu sais, là, à cette heure, toute la planète aime les super-héros, mais moi, j'ai aimé les super-héros toute ma vie, avant tout le monde, de par les comic books, puis toutes ces affaires-là. Et Superman est mon personnage préféré dans tous ces personnages-là. Et l'affaire, c'est que, il y a quelques semaines, je suis comme... Ah, les nouveaux shows de super-héros vont pas commencer avant un bout, mais les shows de CW, où ce que je prends mon contenu de super-héros habituellement, hors comic book. Puis, moi, ce que j'aime vraiment des super-héros, c'est pas la fantaisie de puissance, c'est la fantaisie de quelqu'un qui est autant puissant, mais qui agit avec bonté et de façon morale. Moi, mm-hmm, c'est ça qui vient me chercher. Fait que, tu sais, j'ai Amazon Prime, puis n'importe quelle image des fucking boys devant moi, là, je suis comme, non, pas intéressé. Oui, il représente l'État américain des années Bush, cette shit-là, ça me tente pas. Moi, Monsieur Fort avec cap, je veux voir Monsieur Fort avec cap aider les gens et être gentil, voir la version twistée qui représente les vraies affaires, que nenni. Aucun intérêt, ça me dérange pas. Je sais déjà que dans le vrai monde, la plupart des gens puissants se comportent mal. Moi, je veux être transporté dans le monde où ce que la personne qui est forte est gentille. Parce que c'est la véritable fantaisie, la véritable fiction. Puis, sachant que ces shows-là ne revenaient pas, mettons, avant 2021, là, je suis comme, là j'ai besoin d'absorber ça en moi. Puis, il y a un nouveau film animé de Superman qui est sorti récemment. Alors, je me suis dit, je vais me replier vers ça. Les films de DC Universe Movie, toutes ces affaires-là, c'est tout de même quelque chose de prolifique pour DC Comics, puis comment que ces personnages-là sont connus. Avant de les voir dans les vues en live action, ces personnages-là, ils apparaissent dans ces films animés-là, puis dans ces séries animées-là en premier. T'sais, tout ça, ça vient de la série de 1992 de Batman Animated, qui est encore comme la meilleure version de ces personnages-là. Fait que là, il y a eu ça, il y a eu Superman Animated, et après ça, Justice League, et après ça, Teen Titans, que t'as comme quasiment un 15-20 ans de bons cartoons très formateurs qui fait que ces personnages-là sont connus puis ils apparaissent en live-action plus tard. T'sais, Cyborg est dans le film de Justice League à cause qu'il est dans Teen Titans. T'sais, toutes ces affaires-là, il y a comme un gros public qui c'est leur première rencontre avec ces personnages-là. Fait que ce que DC Universe, eux autres, ils font, ils font des films animés. Ça fait longtemps qu'ils font des petits films animés. Avant, ils étaient comme juste 50 minutes. Là, ils sont rendus plus aux 76-86 minutes. Mais ces films-là, je te dirais qu'ils sont pour la plupart moins bons, mais sont aussi un peu plus edgy et adultes. Mais sont pas aussi bons que les séries originales. Mais fait que là, ça, c'est le contexte de où ces films-là existent. Et Superman, Man of Tomorrow, c'est une autre histoire d'origine de Superman qui n'a pas été faite tant que ça en animation. Et c'est un peu basé sur une bande dessinée qui s'appelle Superman American Alien, que j'aime beaucoup, beaucoup, mais qui est écrit par Max Landis, qui est une personne que j'exècre puissamment. Max Landis, qui est le writer de Chronicle, qui a écrit... j'ai le goût de dire qu'il a écrit Holmes and Watson, mais ça serait son
genre,
mais
c'est pas ça. Il a écrit Igor Frankenstein.
Ouais, il a écrit...
Bright. Il a écrit... il fait Dick Gently's Hobo...
Le Stick Agency, là. Ouais.
Ouais, l'affaire avec Elijah Wood.
Puis il a aussi fait American Ultra. Fait que,
oui, c'est vrai.
Fait que, tu sais, il travaille...
Ah oui, puis il y a aussi le film avec Anna Kendrick, Mr. Right. Anna Kendrick et Sam Rockwell. Film soit d'ouverture ou de fermeture de TIFF l'année que c'est sorti, ce qui est une chose qui fait complètement insensé. Réalisé par un gars que son seul autre film, c'est un film de Nicolas Cage, straight to DVD.
En tout cas. Fait que bref, Max Landis est un creep abusif. En plus d'être une personne désagréable, mais il a aussi écrit un de mes comics de Superman préférés. Alors, comme, regarde, Superman, il y a, tu sais... J'adore Superman, mais Bryan Singer a aussi fait réaliser un film de Superman. Fait que, dans lequel Kevin Spacey joue. Fait que tout va bien. Il n'y a rien de pur dans ce monde. American Alien et justement Man of Tomorrow, ça, c'est comme l'origine d'un jeune Superman qui vient d'arriver à Metropolis, qui est Clark Kent, il est reporter, puis il n'a pas encore assemblé tous les morceaux de comment il va utiliser ses pouvoirs. T'sais, il n'a pas encore son costume de Superman, il n'a pas encore vraiment créé son identité publique. Puis qui est en déchirement, justement, avec ses origines extraterrestres, parce que dans cette version-là, comme il ne sait pas d'où qu'il vient, il sait juste qu'il est fort, puis il sait qu'il est extraterrestre. T'sais, la première scène... La meilleure scène du film, c'est la première où tu le vois écouter un film de science-fiction avec ses amis, puis il est vraiment dessiné comme un petit kid principal d'un film de Amblin, puis que son ami, il écoute un film d'extraterrestre, puis son ami est comme « Wesh, c'est fucking dégueulasse, une chance ça n'existe pas pour de vrai les extraterrestres. » Puis là, lui, il se met comme à capoter, tu sais. Il est comme... Fait que c'est un film qui parle un peu de ça, mais qui va pas tant en profondeur. Puis c'est ça, là, ultimement j'ai trouvé ça comme... Il y a comme juste deux scènes qui m'ont un peu... En fait, une scène qui m'a vraiment donné ce dont j'ai parlé, c'est comme l'aspect bonté d'une bonne mm-hmm. personne fait des bonnes choses avec ses pouvoirs. Le reste, c'est de l'animation avec des beats d'origine, avec des tu sais, correct au plus. L'animation, les designs sont super beaux. L'animation, par exemple, est pas tout le temps... Et parfois cheap, c'est les batailles qui sont belles, mais pas les scènes où les personnages sont acteurs.
Mm-hmm.
Puis ça, c'était comme l'arme secrète des premières séries animées de DC Comics, c'est qu'il y avait comme du voice acting vraiment écœurant et audacieux. Là, il y a du monde plus connu. Tu sais, c'est Darren Criss qui fait Superman, puis c'est Zachary Quinto qui joue Lex Luthor, mais sont bien dans le... Leur performance match l'expression des bonhommes animés, puis ils sont pas tant que ça. Fait que mm-hmm. c'est ça, mais si vous cherchez comme une... C'est très aussi J.J. Abrams-esque. Genre, mettons que J.J. Abrams aurait fait un film de Superman en 2008, ce que je crois qu'il va faire dans les 5 prochaines années pour Warner Brothers anyways. Mais mettons, mm-hmm. en 2008, là, de quoi aurait l'air un film de Superman par J.J. Abrams, ça ressemble à ça. Là. Fait que...
Mm-hmm.
Tu sais, c'est pas mauvais. Si vous voulez être familier un peu avec le personnage ou une version plus par exemple, de son origine, c'est correct. Fait que, mais c'est ça, c'est, dans le fond, c'est ultimement correct, ça manque juste de l'émotion qui est nécessaire pour faire voler ces affaires-là, à mon avis. Là.
Mm-hmm. C'est pas que mes deux films cette semaine viennent de la même année, 1985, et le premier que j'ai regardé, c'était Enemy Mine, réalisé par Wolfgang Peterson. Enemy Mine est un film que je n'avais jamais vu, puis qu'au début de la pandémie, on s'était dit, moi et ma blonde, qu'on allait le regarder parce qu'elle, c'est un film qu'elle se souvient de quand elle était petite, elle avait des bons souvenirs de ça. Elle voulait le revoir. Puis moi, je l'avais jamais vu, puis ça nous a pris un bout. Là, on est revenu dans la pandémie, fait que genre, ça a pris la deuxième ronde pour s'y rendre. Mais c'est un film duquel j'avais tellement pas de... Tu sais, il y a plein de films à cette époque-là que, genre, tu sais, mais attends, je pense pas que j'ai parlé de Labyrinthe, mais genre, j'ai regardé Labyrinthe pour un peu dans le même contexte, là, parce que ma blonde, elle se rappelait d'avoir vu ça quand elle était petite. Puis, moi, je m'en souviens de l'avoir vu, puis que j'étais terrorisé par ça, genre. Il y a beaucoup de films que je me souviens quasiment quand je les ai vus, mais rien à propos du film. C'est juste comme, ah, c'était à la TV à un moment donné, j'étais avec tel autre enfant qui était l'ami, l'enfant de l'ami de mes parents, puis on écoutait la TV, puis il y avait ça, puis tu sais, j'ai pas trop joué au Lego, fait que j'ai seulement regardé ce qui se passait. Puis Enemy Mine, j'avais aucun sens de ce film-là, je connaissais la boîte, puis je pensais, en fait, on en a parlé toi puis moi, mais je pensais que c'était en fait le film Alien Nation avec James Gunn. Pour moi, ces deux films-là étaient le même film, genre. Fait que je suis arrivé dans ce film avec vraiment aucune notion de dans quoi je m'embarquais. Parce que, justement, j'avais confus ce film pour un autre film. Fait que Enemy Mine, c'est avec Dennis Quaid. Dennis Quaid qui joue un pilote, tu sais, c'est le vaisseau spatial, là, qui, dans un futur, mettons, là, ça dit late 21st century, je me souviens pas s'il donne même pas une date, là, mais dans le futur, il reste les humains et les dracs, une race d'humanoïdes, reptiliens qui font la guerre aux humains pour se battre pour avoir le territoire qui est restant de la galaxie. Et Dennis Quaid, pendant une mission, s'écrase sur une planète et arrive sur la planète. Et avec qui est-il? Mais bien un Drax, Jerry Bashigan, qui s'appelle Jerry dans le film, joué par Louis Gossett Jr. Donc, c'est un peu une affaire de body comedy, tu sais, odd couple, genre, tu sais, ils s'entendent pas. Au début, ils se comprennent même pas, ils parlent pas la même langue, puis ils sont sur cette planète hostile, tu sais, il faut qu'ils apprennent à vivre. Évidemment, ils ont pas les mêmes besoins, tu sais, ils fonctionnent différemment. Puis, ça commence un peu, tu sais, au début, ça me faisait penser au film Hell in the Pacific, qui est un film des années 60 avec Lee Marvin et Toshiro Mifune, où est-ce que Lee Marvin et Toshiro Mifune jouent deux pilotes qui s'écrasent sur une île du Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis ils sont pas du même bord, fait que là... Mais ça, c'est plus un film où, tu sais, un film d'action où est-ce qu'ils se traquent. Tu sais, un après l'autre, ils se tentent des bombes, c'est un peu comme un double Home Alone, là, sur une île déserte. Puis ça, c'est pas ça. Ça commence comme ça, tu sais. Mais ça devient plus une affaire d'amitié. Puis là, spoiler alert, là. Tout de suite, je vais faire des spoilers pour Enemy Mine, un film qui est sorti en 1985. Mais tout de même, à peu près à mi-chemin dans le film, on apprend que le personnage, tu sais, les pas Dalek, ça, c'est dans Doctor Who. Comment j'appelais ça?
Les Draks.
Les Draks sont en fait comme asexués et peuvent faire des enfants. Ils font des enfants, genre, je sais pas c'est quoi. Ouais, ils se reproduisent asexuellement. Fait qu'autrement dit, ils n'ont pas besoin d'une autre personne pour faire un bébé, puis ils sont comme hermaphrodites, I guess. Fait que le personnage de Jerry, qui est joué par un monsieur noir de 50 ans qui mesure 7 pieds, est enceinte d'un bébé. Puis là, ça devient plus comme une histoire d'amour, genre. Je m'attendais tellement pas à ça que je trouve ça quand même difficile à expliquer, là, mais c'est vraiment pas le genre de film que je pensais que c'était. C'est beaucoup plus weird, dans le sens que, tu sais, ça colle pas à un genre, ça colle pas vraiment à la science-fiction en tant que telle. C'est un peu comme toutes les passes de Yoda, mettons, dans Empire Strikes Back.
Ok, beaucoup de boucanes, de la boîte.
Ouais, c'est ça. T'sais, ils vivent dans un genre de planète semi-désert, semi-swamp. Tu sais, puis c'est ça, ils vivent dans le swamp, puis là, ils se nourrissent des poissons, puis des weird affaires qu'ils trouvent là, puis des genres de limaces, puis... Tu sais, ils deviennent amis, mais là, après ça, ils deviennent un peu plus comme un couple, parce que là, ils ont un enfant, tu sais, puis tu sais, la morale, la grosse morale, tu sais, années 80 de ça, c'est que ce film-là est exactement la même chose que Green Book, c'est-à-dire, c'est un film à propos d'un noir et d'un blanc qui deviennent amis, genre. Mais... T'sais, c'est plus concept de science-fiction, ça. J'ai bien aimé ça, pour dire, juste parce que ça m'a... Peut-être parce que ça m'a pris de court, parce que je pensais vraiment pas que ça allait être ça. C'est très étrange dans la façon que ça mêle les genres. En fait, il y a pas vraiment de genre, t'sais, c'est science-fiction parce que c'est un concept de planète puis d'alien, tout ça. Mais... C'est un peu un film d'action, mais aussi comme une genre de comédie romantique entre un homme et un alien. Puis éventuellement, le bébé est né, devient un petit enfant. C'est vraiment dur à décrire. C'est visuellement, c'est assez pété, mais tu sais, c'est du post-dune, design de planète, t'sais, de semi-maquette, semi-peinture, pas tout. C'est que tu sais, c'est quand même, c'est super intéressant visuellement. Tu sais, le fait que c'est ça aussi. Tu sais, le fait que. Dans le fond, en le regardant, j'étais comme. Tu sais, si ça sortait aujourd'hui, on traiterait ça comme on a traité The Shape of Water, genre.
Mm-hmm.
Tu sais, à l'époque, c'était juste un film d'alien pour les enfants. Tu sais, tout le monde, toi, quand je t'avais demandé si tu l'avais vu, t'as dit, quand j'étais jeune. Tu sais, c'est un film que tout le monde se rappelle avoir vu en tant qu'enfant. Mais en le regardant en tant qu'adulte, je suis comme. On a vraiment. Tu sais, dumb down, qu'est-ce qu'on fait comme divertissement wannabe familial, je pense, en 35 ans. Parce que, genre, ça, c'est comme rien qui existe. Mais en même temps, tu sais, tout le monde peut plus ou moins y trouver son compte, mais c'est une proposition quand même inhabituelle, surtout maintenant. Tu sais, dans le temps, peut-être que, tu sais, on faisait des films plus weird, on prenait plus de chance. Mais j'ai vraiment, tu sais. C'est ça, on traiterait ça comme Moon, là, le film avec Sam Rockwell.
Ouais, de Duncan Jones.
Comme une affaire, genre, waouh, c'est du gros sci-fi intense, tu sais, c'est super, le monde est super construit. C'est pas tant ça, mais vu que, tu sais, ça existe, ça ressemble à rien qui existe, c'est basé sur rien qui existe. Et tout ça est très étrange.
Ben, c'est vraiment étrange parce que, tu sais, quand tu penses à la science-fiction, maintenant, tu parles justement, tu sais, moi, ça, je me rappelle l'avoir vu, genre, à Télémétropole un soir. Mm-hmm. Puis, à cette époque-là, il y avait tellement pas de science-fiction pour les jeunes, ou du moins, celle qu'il y avait était vraiment ciblée un peu trop pour les jeunes, puis qui essayait pas d'être « cool », entre guillemets,
mm-hmm.
que si tu voyais un truc qui était science-fictionnel, mais qui était plus adulte, même si t'avais 12 ans, t'étais comme « oh shit, c'est quoi ça?
Mm-hmm. »
C'est là que tu pouvais aller le chercher parce que tu sais, mettons que j'ai 12 ans maintenant puis je veux écouter de la science-fiction, il y a vraiment comme une variété d'affaires qui existent pour moi avant de me rendre à Enemy Mine. Versus qu'à cette époque-là, J'ai comme, oh, ce film-là a des affaires d'espace puis il y a d'extraterrestres dedans, je veux le voir parce que j'en ai pas tant que ça. Sinon, faut que je passe à travers le rack de clips vidéo pour trouver d'autres affaires, tu sais. Fait que... c'est ça qui crée l'alchimie bizarre, souvent qu'on pense, ah, quand on était jeune, les films étaient plus crunchés puis tout ça, mais non, c'est juste que il y avait tellement moins de divertissement, mettons, de nerd puis de jeunes nerds que si tu voulais écouter une affaire de science-fiction, il fallait que tu te rabattes des fois sur une shit qui était vraiment plus adulte, mais qui avait un dude avec des guns laser dedans. Fait que t'étais comme, oh Chris, ouais, c'est ça. Là.
Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, justement, tu sais, comme, parler de Shape of Water, là, comme exemple. Je pense que, tu sais, si Shape of Water, c'était un film qui était sorti comme en 1992, ce serait un film que tout le monde a vu à TQS. Tu sais, c'est dans ce genre de moule-là, c'est sûr qu'il y a, tu sais, il y a des scènes de cul entre un humain puis une bébite poisson. Ce qui déjà sort ça de, tu sais, d'un realm familial. Là. Mais ça, tu sais, c'est le genre de film, je sais pas, comme de genre rassembleur que tu peux aimer, tu sais, quand t'es un enfant, tu le regardes, tu te dis que tu sais que t'es pas supposé regarder ça, mais tu sais, tu le comprends, c'est un conte.
Ouais.
Enemy Mine, c'est un peu comme ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est très simple, là, qu'est-ce que t'sais, les valeurs que ça essaie de véhiculer, puis l'histoire que ça raconte est pas tant compliquée, mais le mix de ton puis d'idées dedans est tout de même assez mature et assez avancé pour, tu sais, je te dirais peut-être le niveau du film.
Mm-hmm.
Puis ça rend ça quand même vraiment intéressant comme film. Puis ça finit avec, tu sais, une scène d'action crissement années 80 dans une mine, justement. Avec full de boucanes, puis de néons, puis d'affaires, puis... Tu sais, une demi-heure avant ça, t'es tellement pas là en regardant le film que c'est surprenant, tu sais. Tu fais, OK, je pense, tu sais. Là, c'est une autre affaire aussi qui arrivait dans le temps. Un film où il y a de l'action genre deux fois.
Ouais.
Tu sais, un film où c'est genre ostensiblement juste une comédie, puis là, la dernière demi-heure, tout le monde s'attire dessus, puis tu fais comme, OK. Tu sais, en tant qu'enfant, tu trouves ça quand même plate, parce qu'il faut que tu tapes la partie parce que, tu sais, il y a des sentiments adultes que tu ne comprends pas. Mais, ouais, c'est ça. Enemy Mine, c'est... J'étais très surpris de façon positive par ce film, qui a plein d'idées intéressantes, qui est quand même progressiste pour son temps aussi, tu sais, qui véhicule des idées comme de... Comme le personnage de Jerry est essentiellement une personne non-binaire.
Mm-hmm.
Puis il utilise des « they pronouns » dans un film d'Alien en 1980. Tu sais, il y a quelque chose de comme... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je pensais pas, tu sais... C'est un peu comme le principe, tu sais, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine quand je vais parler de Boys in the Band, mais tu sais, Boys in the Band qui est un film sur l'homosexualité, mais qui est en 1970, tu sais. Puis pour un grand pan de la société qui a peut-être pas vu ce film-là à cette époque-là, bah, ça existait pas des gays quand moi j'étais jeune, tu sais. C'est une affaire qui a été inventée quand j'en m'en suis rendu compte, ou whatever, tu sais. Puis c'est un peu le même principe avec Enemy Mine, tu sais, ce que j'étais comme, ah, finalement, ces idées-là. Que le monde se crie par la tête sur Twitter là, pour essayer de crier après J.K. Rowling ou whatever, sont vraiment pas si nouvelles ou radicales qu'on peut les faire sembler là, quand il y a des hosties de jambon qui n'écoutent pas de quoi qu'on parle.
Écoute, c'est dit, Enemy Mine, plus progressiste que l'œuvre d'Harry Potter. Drette là.
Ça, c'est absolument vrai. Ben, genre, en tout cas, Wolfgang. Dennis Quaid, il est un peu graine, je pense, mais il est pas, je pense pas que je considérerais pas l'auteur de ce film.
Ouais, ouais. Fait, mais l'affaire que tu m'as surpris, c'est que c'est Wolfgang Peterson qui est tout de même...
Ouais.
En tout cas, qui est un gars de plus grosse envergure.
Ouais, ben c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est... il a été amené pour remplacer le réalisateur original, en fait, parce que ça a chié au début. Il a fallu tout qu'il... Je lisais ça sur le Wikipédia. Le maquillage était de la merde et la réalisation était de la merde. Il a fallu qu'il recommence tout le design et tout ça pour. Puis c'est ça. Puis Wolfgang Peterson, il a fait Das Boot, là, qui est un film de sous-marin.
Ouais.
Qui est vraiment, vraiment bon, mais tu sais, qui était un gros hit interplanétaire. Tu sais, le genre de. Ça arrive très rarement, tu sais, un genre de parasite, là. Tu sais, mettons un film qui vient d'un autre pays dans une autre langue, mais que tout le monde se garoche dessus comme si c'était un blockbuster. Puis après ça, il a fait L'Histoire sans fin. Puis après ça, il a fait Enemy Mine. C'est un parcours plutôt étrange.
Ben, pendant une bonne run, je dirais, là, dans le pré-internet geek qui pouvait traquer tout ça détaillé, pendant un bout, Wolfgang Peterson, c'est lui qui allait faire un Batman versus Superman. Au script qui était écrit par Andrew Kevin Walker, qui avait écrit Seven. C'était comme ça, mm-hmm. la grosse affaire d'un jeu. C'est comme, man, le gars qui a écrit Seven, Wolfgang Peterson, ils vont faire un Batman versus Superman. Puis, ou. En tout cas, bref, ça c'est jamais arrivé, mais je me rappelle d'avoir lu les scripts sur Internet qui étaient disponibles dans le temps. Une perte de temps parce que je m'en rappelle plus. Je vais y aller avec.
T'as sûrement eu du plaisir à ce moment-là.
Ouais, je pense que c'était juste correct. Je pense que ça avait rapport avec. Superman n'avait pas réussi à sauver la femme de Batman alors que Batman allait se marier, fait que là, il voulait péter Superman. Ouais. Quelque chose de même. En parlant de personnages qui veulent péter d'autres personnages, je vais parler de mon deuxième film de la semaine qui est The Accidental Spy, qui est un film de Jackie Chan qui est sorti en Amérique du Nord en 2001 et qui, en début 2001, et c'est un film qui met, bien sûr, en vedette Jackie Chan. Et c'est vraiment particulier, ce film-là, parce que, tu sais, ça revient à ce que je pense, j'en ai peut-être parlé la semaine passée, mais ma thèse constante, c'est que, tu sais, Jackie Chan se transpose à Hollywood. Mm-hmm. Peu importe les films qu'il fait, Jackie Chan, lui, il est comme « mes idées, mon showmanship, les affaires que je veux faire, qui sont... » en général, en théorie, ses cascades, puis sa personnalité à l'écran, tout ça, qui est merveilleuse. Je veux mettre ça dans les films d'Hollywood, et de la façon que Hollywood slash le cinéma international change, je vais faire des films de ça, mais ils vont être renouvelés et spéciaux de par ma présence dedans. Tu sais, c'est les mm-hmm. plus que je vois ça, c'est les films de Jackie Chan. Excepté le début de sa carrière où ce qu'il est comme plus dans un carcan de films de Hong Kong, les films de Jackie Chan sont, tu sais, Police Story, c'est qu'est-ce qui arriverait si tu faisais Little Weapon ou Cobra, mais à la place de Stallone, tu mettais Jackie Chan dedans.
Mm-hmm.
Puis là, j'ai récemment vu Project A qui était comme qui est très, tu sais, old Hollywood, mais Jackie Chan dedans. Là, The Accidental Spy, on est dans une grosse marmite de thriller d'espionnage mi-fin 90, début 2000. Quand je l'écoutais, ça me faisait beaucoup penser à l'esthétique et la vibe de Saint
qu'on a vu.
Mais aussi avec un petit soupçon de Mission Impossible 2, qui est réalisé par John Woo. Mais tu sais, l'intrigue, c'est essentiellement... Jackie joue un gars qui s'appelle Buck dans la version originale, mais moi j'ai vu la version qui est sur Prime, qui est la version Miramaxée du film, qui est la version sortie mm-hmm. par Miramax, alors qui est en 4:3, ce qui est absolument dégueulasse, mais qui vient aussi avec une nouvelle soundtrack que je pense qui est un petit peu Grey Dragonifié mais moderne, mm-hmm. puis avec un dubbing aussi qui est vraiment absolument terrible. Mais même à travers ces affaires-là dégueulasses, le film brille pareil parce que tu sais, c'est Jackie Chan qui. Ça commence qu'il est un vendeur de biens, d'équipements sportifs. Et il devient populaire à cause qu'il stoppe un vol, un braquage à main armée dans le centre d'achat dans lequel il travaille. Fait que là, il devient comme une renommée dans son pays. Puis là, il se fait contacter par un vieux monsieur qui est sur l'article de la mort, qui est potentiellement son père qui l'a laissé à la naissance. Et puis, quand il arrive pour prendre contact avec cette personne-là, il réalise que le père est impliqué dans une genre d'intrigue d'espionnage. En fait, une intrigue de thriller, parce que ça s'appelle The Accidental Spy, mais tu sais, Jackie espionne jamais vraiment.
Mm-hmm.
Mais son père est impliqué avec des vendeurs d'opium qui ont créé du super opium que des criminels veulent avoir à tout prix. Et à travers ça, ben tu sais, ça c'est la raison pourquoi des méchants vont vers Jackie Chan et que Jackie Chan doit faire sa magie pour éviter et combattre ces méchants-là. Il est plus pour la plupart, il est à Istanbul là, tout le long. Puis, c'est ça, comme malgré tout ce que j'ai dit, l'aspect de Miramax, le 4-3, tout ça, c'est une série de lentilles sales avant de pouvoir regarder le film qui est derrière. Mais le film est tout de même vraiment charmant. J'imagine que justement, aussi si je l'avais pas vu dubé, j'aurais pu plus glisser à travers l'intrigue puis d'essayer de créer de l'émotion qui marche pas super bien. Mais c'est rempli de bons showcases de bataille de Jackie Chan que... Tu sais, c'est... Ça se passe à Istanbul, tu sais, il y a une scène qui se base dans un bain turc, puis là, alors que la scène commence, tu vois un gros swipe de caméra qui montre toute la géographie du bain turc. Il y a des comme « Ah, Jackie va se battre dans le bain turc! » Puis là, il y a des batailles, à travers les batailles, tu sais, ils pognent des bouteilles ou ils squirtent de l'huile pour pouvoir slider puis éviter ou puncher, des affaires comme ça. Fait que c'est tout, tu sais, comme je dis, tu sais, comme de sainte, c'est plate, mais si ça avait été Jackie Chan dedans, on aurait été comme « Oh, calice que c'était bon! Hostie que c'était bon! » Parce qu'il y a, c'est une série d'enchaînements qui mènent à des batailles puis à des cascades, des affaires de fun qui sont vraiment efficaces, même si l'emballage est vraiment... Comme, tu sais, le reste, là... Je vais toujours me rappeler que quand il s'est battu dans la chambre d'hôpital... avec des malfrats, il a utilisé les pads de défibrillation pour puncher les dudes, mais à cause des câbles, il pouvait pas aller assez loin, fait qu'il était comme, il était en retrait, puis il électrocutait, puis je me rappelle pas pourquoi il était là, puis qu'est-ce que ces méchants-là ils voulaient, mais ça je m'en rappelle. Puis ça vaut pour plein d'autres scènes comme ça, et je pense que c'est 90-2000, t'es comme dans ce genre de sweet spot-là de Jackie Chan que même si le film autour est moins bon, t'es comme en sécurité avec lui que tu vas avoir un spectacle divertissant. Fait que c'est pour ça que, mettons que vous pouvez voir une version qui est pas sur Amazon Prime, qui est vraiment deg, je recommanderais tout de même chaudement Accidental Spy. C'est tout aussi le charisme de Jackie Chan comme Everyman qui dit comme « Oui, je peux me défendre parce que j'ai fait du kung-fu quand j'étais jeune. » Puis là, il peut battre n'importe quel assassin qui s'attaque contre lui, mais parce que lui, il est jamais show-off dans « dans Hey, bat Christian volé. » T'es comme « Sacré Jackie, tout le temps en train de... » Fait que, ouais, Accidental Spy. La version non Amazon Prime, ça fait un bon petit vendredi soir.
Faudrait que je regarde un film. Faudrait que ce soit moi qui parle d'un film de Jackie Chan la prochaine fois. Là.
Ouais, ben, tu sais...
J'en ai regardé un, puis...
Ouais, mais tu sais, l'affaire, c'est depuis le début du confinement, on dirait que, tu sais, comme je disais, j'avais pas regardé une affaire de Superman pour comme quelque chose d'émouvant ou qui venait me chercher, tu sais, c'est... Il y a quelque chose dans le cinéma d'action d'Hong Kong, dans l'acrobatie, absolument dans la comment que les émotions sont souvent vraiment primaires, plus le spectacle acrobatique, que c'est quelque chose qui me berce depuis ces 6 derniers mois incertains. Fait que c'est pour ça que j'en parle à chaque semaine, parce que j'en écoute quasiment un à chaque semaine.
Ouais. Ben tu vois, là, maintenant que je suis revenu dans le beat et qu'on retombe en confinement, moi, je vais me laisser bercer par les affaires Nicolas Cage, Mickey Rourke, Val Kilmer, tu sais.
T'es boys.
C'est ça, mes boys. Bruce Willis. Là, j'ai vu que sur Prime, il y en a un nouveau avec Mel Gibson qui a l'air d'être de l'hostie de marde.
Forces of Nature.
Ouais. À ne pas confondre avec celui où est-ce que Ben Affleck et Sandra Bullock.
Oui.
French est danseuse, genre. Ça se peut.
Je me rappelle pas, ça, mais je me rappelle du poster que les deux sont dessus. Puis c'est pas Force of Nature, mais c'est un titre tout de même similaire.
Non, c'est ça. Forces of Nature, okay. 1999. OK, ça a l'air d'être un rom-com avec la prémisse de Planes, Trains and Automobiles. C'est-à-dire qu'ils veulent se rendre quelque part, fait qu'ils louent un char ensemble, mais là, ils tombent en amour.
Ah! C'est une très belle fin pour eux. Ça.
Donc, ben, je présume. Là. Puis Ben Affleck se posait se marier avec Maura Turney, mais il décide de se marier avec Sandra Bullock, I guess, à la fin du film. Anyway, je me souviens que, si je ne m'abuse, c'est le film pour lequel Ben Affleck était allé à box office, puis qu'on a le
un autre chapitre.
Famous footage. Ouais. Ouais. Je pense que c'est soit ça ou Bounce avec Gwyneth Paltrow. En tout cas, bon, moi j'ai regardé. On a parlé il y a quelques semaines de Modern Romance de Albert Brooks.
Oui.
Et moi j'ai décidé de profiter du fait que là. Certains des cinq premiers films réalisés par Albert Brooks en fond sont sur Criterion en ce moment pour remplir les trous qu'il y a dans mes connaissances d'Albert Brooks pour regarder visionner Lost in America aussi de 1985, la même année que Enemy Mine. Et c'est ça s'inscrit quand même dans la même tradition que Modern Romance, dans le sens où c'est Albert Brooks joue un gars qui travaille dans une compagnie de marketing, un cadre dans une compagnie de marketing, qui, avec sa femme, qui a aussi une bonne job, je pense qu'elle travaille pour un magasin à grande surface, comme dans les bureaux. Puis ils sont yuppies des années 80, ils pensent beaucoup aux affaires qu'ils vont s'acheter, puis à comment ils vont paraître, puis tout ça. Puis... le personnage de Albert Brooks, qui s'appelle David, est en lice pour une grosse promotion et il ne la reçoit pas. Il se fait plutôt transférer au bureau de New York. Une semaine avant qu'il est supposé déménager dans la nouvelle maison trop chère qu'il a achetée à LA pour paraître. Donc, il décide plutôt d'envoyer chier son boss et de se retrouver, se ressourcer, comme dans Easy Rider. Le film mentionne beaucoup Easy Rider. Il dit, je veux faire comme Easy Rider. Je veux aller vivre, me déconnecter de la société, dans le fond, à vivre dans un RV, live that, ce qu'on appelle maintenant le hashtag van life. Mm-hmm. C'est ça, vivre dans une van, puis pas avoir d'attache, pas avoir rien. Lui et sa femme qui est jouée par Julie Hagerty. Puis donc, ça, comme tu peux le deviner, ayant vu Modern Romance, ça va très mal, ça se passe très peu. Se rendre compte que la façon de ne pas être un yuppie, c'est pas juste de te lever un matin et décider de ne pas être un yuppie, parce que tes plaisirs et tes conforts vont te trahir. Modern Romance, je trouve que c'est fucking bon, là, on en a parlé déjà il y a une couple de semaines. Je trouve que Lost in America, c'est pas autant fucking bon. Et c'est parce que, je crois, c'est un film qui est extrêmement à propos de 1985.
Ben, juste que tu parles de yuppie, tu sais, de young urban professionals, ça, c'est vraiment... Moi, j'ai appris ce mot-là en lisant Crow quand j'étais jeune. Tu sais, c'était l'époque que ça venait, là.
C'est ça. Puis, tu sais, l'élément satirique de ça... en fait, c'est deux affaires qu'on ne porte plus dans notre cœur, mettons, en 2020, c'est-à-dire les yuppies et les boomers. Parce que l'autre affaire, c'est, tu sais, attendre 17 ans pour être inspiré par Easy Rider pour changer ta vie, c'est crissement OK boomer comme affaire à penser, tu sais. Puis c'est un peu ça, tout le tout ce que Albert Brooks déconstruit, dans le fond, c'est l'idée du American Dream, puis tous ces idéaux de boomer-là, genre. Puis, en autant que c'est super bien fait parce que c'est Albert Brooks, ça a mal vieilli. C'est plus un argument. C'est un argument qui est très, très rattaché à 1985. T'sais. Tandis que Modern Romance, je trouve que ça va dans les affaires plus universelles. Puis, Lost in America, mettons, comme exemple, je vais donner un exemple d'une scène. Il y a plusieurs scènes d'anthologie gênantes là, dans Modern Romance. Dans Lost in America, une de ces scènes-là, c'est ils veulent une suite dans un hôtel, puis ils disent le gars là, qui donne les chambres dit non, il n'y en a plus, on n'en a plus. Fait que là, sa femme a dit donne-y de l'argent, puis elle dit non, je veux pas donner de l'argent, ça donne rien. Puis, dans le fond, c'est une affaire de ça, de pot de vin, de donner des pots de vin à un gars pour avoir une chambre d'hôtel, tu sais. Puis, je pense que si t'étais un dos de riche qui travaillait dans une firme de marketing, voir ça en 1985, c'était très gênant. Tu sais, de devoir un peu comme quémander l'affaire que tu penses que tu mérites. Ça, c'est gênant. Mais là, maintenant, en 2020, tu sais, je trouve que ça appartient à cette époque-là. Là. Moi, jamais ça va. Tu sais, je pense que même quelqu'un de riche, c'est pas vraiment relatable. Il y a une app qui va faire ça à ta place maintenant.
Ouais.
Puis, évidemment, le film n'est pas garant de toujours rester frais. Là, c'est un film est fait l'année que c'est fait, puis après ça, la garantie, c'est pas ce film-là va être bon pour toujours, il va jamais mal vieillir. Mais je pense que, tu sais, c'est un peu ça qui fait que c'est moins intéressant dans le milieu. Il y a aussi comme un twist. C'est encore un spoiler pour Lost in America, mais pas vraiment, ça arrive à la moitié du film. Il y a comme un twist où que, il dorme dans un hôtel, dans un casino, puis là, la femme, je sais pas c'est plus son nom, la personnage Linda, qui est jouée par Julie Hegarty, elle prend tout leur argent, puis elle gamble, puis elle perd tout. Puis il y a rien dans le personnage qui nous suggère qu'elle ferait ça, ce qui est, je pense, le but du twist. Mais, tu sais, on s'entend que c'est un twist extrêmement clean pour continuer un film, tu sais, pour virer un film sur un 10 scènes, puis... Je trouve, tu sais, en tout cas, j'ai pas cru à ce twist-là. Quand c'est arrivé, j'étais comme, ok, ça n'a pas de style de rapport. Ça, c'est juste arrivé pour que le film aille là où est-ce qu'on veut, où est-ce qu'il veut aller. Tu sais, c'est comme, c'est très sweaty, comme. Je pense, comme développement, là, au point de vue narratif. Puis, ça, j'ai décroché, là, en fait. Rendu là, j'étais comme, ok, ça, tu sais, je trouve plus ça tant. Tu sais, autant que dans Modern Romance, le personnage d'Albert Brooks. Tu sens dans tes os comment gênant que c'est. C'est comme universel à quel point il est gênant. Ici, c'est pas universel. T'sais, il est gênant pour un certain type de personne qui va se reconnaître dans lui qui existe de moins en moins. Fait que c'est encore super bien fait. Surtout la première demi-heure là, où, avant qu'il décide de déconnecter de la société. Ça, c'est très Albert Brooks nerveux comme dans Modern Romance. Puis. N'importe quand qu'il crie après quelqu'un ou qu'il s'ostine avec quelqu'un dans un bureau, c'est autant bon. Mais le reste, je trouve, c'est plus... C'est très, très ancré dans le moment dans lequel ça a été fait. Puis ça, c'est pas de la faute du film, mais je trouve que ça m'a pas interpellé autant. Que Modern Romance, t'sais, qui semble, même si tout est différent, semble encore extrêmement pertinent.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, parce que dans... T'sais, Modern Romance, c'est vraiment ces deux personnes-là, puis comment ils s'entre-nourrissent, puis ces affaires-là. Là, c'est
ça. Puis c'est hot que dans ce film-là, le personnage de Julie Hegarty est beaucoup plus développé que le personnage de la copine là, dans Modern Romance. T'sais, elle est plus un personnage, plus de joke, elle est plus un. C'est vraiment plus comme un film de deux personnages. Mais hélas, tu sais, justement, c'est ça. Elle a un twist qui suit pas vraiment, puis tout le film dépend un peu de, tu sais, comment elle va changer de façon plus ou moins égale à elle-même. je la connais pas, c'est un personnage dans un film, là, mais tu sais, t'as un peu l'impression qu'il arrive des affaires qui arriveraient pas à ces personnages-là. Mm-hmm. T'as pas le sentiment qu'ils feraient ces décisions-là, ou ainsi de suite. Mais ça fait un peu partie, justement, de la base du film, mais je trouve que ça... Ça colle semi.
Ouais, fait que, ben, en tout cas, j'étais curieux de. Ben, moi, mon prochain que je veux vraiment voir, c'est Defending Your Life, qui est sur Criterion aussi. Que ça, je suis vraiment curieux parce que là, je suis en train. Le concept qui a rapport à vivre après sa propre mort, puis de se questionner sur sa vie, tu sais, c'est. La dernière saison de Good Place va bientôt sortir sur Netflix.
Je pense qu'elle sort cette semaine.
Elle sort cette semaine, ben voilà. Fait que, t'sais,
si elle n'est pas déjà sortie, ça doit être peut-être demain. Genre.
Fait que, tu sais, j'ai pas vu Defending Your Life, mais c'est sûr que ça existe dans un continuum avec The Good Place.
Mm-hmm.
Puis j'ai commencé à écouter aussi, encore là sur Amazon Prime, Upload, qui est aussi. T'sais, en tout cas, c'est un regard sur la vie après la mort, mais là, Upload, c'est plus c'est techno-satirique. Là. J'en parlerai plus quand j'aurai fini la saison. Mais bref, je suis intéressé de voir comment comment que ces vases-là se communiquent ensemble. T'sais.
Mm-hmm.
Mais avant de passer à ces vases qui se communiquent-là, on va passer au film de la semaine, qui est ta suggestion. Il y a un film qui s'appelle Sean, qui est un film réalisé par Ramesh Sippy, qui est un film de 1980, qui est un thriller d'action indien, Bollywood-esque, et qui met en vedette Sunil Dutt, Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor, Shagtrughan Sina, Rocky Gulzar, Parveen Babi et bien d'autres. Je m'excuse de comment j'ai dit les noms quand j'aurais dû le surveiller. Puis j'ai comme mis une twist d'accent à un moment donné. Excusez-moi, c'est pas nécessaire. Je ne connais pas les accents.
En tout cas, c'est des choses qui arrivent.
Des choses qui arrivent. Mais c'est un thriller d'action qui est tout de même vraiment simple. On suit un policier. Un chef de police ou un inspecteur, pas un chef de police, mais un inspecteur.
C'est un deputy commissioner.
Un deputy.
Fait que je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais...
Fait qu'il est pas comme le top, mais il est proche du top. Qui est un policier tout de même héroïque qui combat le crime sous toutes ses formes. Et ainsi, on suit aussi ses deux frères bons à rien qui sont des films flammeurs, qui font des petites crosses et des trucs du genre. Pour faire de l'argent. Et le nerf de la guerre du film, c'est lorsque leur grand frère héroïque se fait assassiner, les deux flim-flammeurs décident de prendre leur vie en main et de prendre surtout vengeance contre la personne qui l'a assassiné, le maléfique chacal.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est l'affaire, c'est que dans un film traditionnel, ce que je vous raconte arrive dans les 20 ou 25 premières minutes. Mais ceci étant un film de Bollywood qui dure 2h46, ça arrive comme à 1h25 durant le film. Alors, c'est très long. Mais avant d'aller davantage là-dedans, Alex, quoi, ton intérêt ou ton interfaçage avec le cinéma bollywoodien, il est quoi? N'as-tu vu beaucoup? C'est quoi ta relation avec ça?
Non, j'en ai vu presque pas. J'ai vu des films indiens, tu sais, je sais pas, parce que, tu sais, Bollywood en tant que tel, c'est comme... Tu sais, je pense que c'est un peu comme... c'est l'équivalent de dire, j'imagine, tu sais, comme qu'un film italien, c'est un giallo, genre, dans le sens que, tu sais, ouais, il y en a full, mais tu sais... Je pense que Bollywood, quand on pense à Bollywood, on pense vraiment à une comédie musicale.
Mm-hmm.
Souvent, tu sais, un genre de comédie romantique, quelque chose avec des un mariage, là, mettons. Tu sais, comme un principe un peu Roméo et Juliette, ça dure 4 heures, il y a full de tunes. Puis, ça, je pense que c'était moins... Je veux dire, la forme, ça, c'est la forme de Chan aussi, il y a des tunes. Tu sais, c'est une comédie musicale, genre. Mais, c'est pas tout à fait... comme ce que... En tout cas, ce qu'on s'imagine. Puis c'est ça qui m'a intéressé, dans le fond. Parce que j'avais jamais vu Chan. J'ai jamais vu aucun des films de Ramesh Sippy ou de... produit par son père, G.P. Sippy. Mais j'ai la trame sonore de Chan chez nous. Fait qu'à un moment donné, je suis devenu quand même relativement... j'ai passé une journée au complet à être obsédé par la musique de films de Bollywood. D'essayer de trouver ce qui s'écoutait le mieux en tant que musique. Et ça, c'est pas pour dire que, tu sais, que c'est pas musical, mais beaucoup, énormément de la musique de Bollywood, c'est vocal et extrêmement vocal. Tu sais, c'est comme, souvent, c'est comme 2 ou 3 secondes de musique. Ça commence à chanter. Les vocals sont mixés super fort parce que t'es supposé, tu sais, comprendre qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas comme acheter un disque de rock'n'roll, là. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y en avait que, tu sais, ils mettent sur les albums les versions sans les vocals narratifs, là, whatever, tu sais. Fait que je suis tombé sur Chan, puis c'est ça, puis là, j'étais comme, oh, la musique de Chan est fucking sick. Il y a beaucoup de synthétiseurs, c'est très funky, genre. Fait que j'avais acheté ça à New York il y a peut-être 2 ans. Je suis revenu à New York avec la bande sonore de Chan, et j'ai jamais pensé pour une seconde de regarder le film. Puis là, tu sais, pendant le confinement, on en a parlé un peu. Je suis devenu comme... un peu plus obsédé avec... autant dans la musique que dans le cinéma, là. Le mainstream... le produit culturel mainstream qui vient de d'autres pays. Mm-hmm. Parce que, tu sais, comme... je veux dire, si, mettons... on va prendre la Corée, par exemple, là, tu sais, parce que... si quelqu'un dit « j'aime le cinéma coréen », tu sais, genre, j'ai vu Parasite, j'ai vu The Host, puis j'ai vu, tu sais, je sais pas, là, Old Boy, mettons. Y a-tu d'autres films comme ça? Oui, il y en a plein. Mais c'est pas les films mainstream, tu sais, c'est pas les films que, si j'étais coréen, mes parents iraient voir, mettons, tu sais. C'est pas les, le trip à trois de la Corée.
Ouais, ouais, c'est pas les boys coréens.
C'est ça, c'est le anti... Fait que là, je suis devenu comme un peu plus obsédé puis avec le Japon, puis la musique japonaise, ça. Puis j'ai fait un peu de recherche dans, tu sais, c'est quoi le stuff, là, purement commercial, indien, tu sais, qui est pas nécessairement quelque chose qui, tu sais, qui, qu'on pourrait voir ici parce que ça serait en nomination pour un Oscar ou, tu sais, en liste pour la Palme d'Or. Tu sais, je voulais regarder, c'est quoi le skyscraper de l'Inde, tu sais. Puis... sur Amazon Prime, il y a plein de vieux films indiens, dont Shan. Là, j'ai fait fuck, c'est le film dont j'ai la trame sonore. Et j'ai décidé de regarder pour ça, mais j'ai vraiment pas vraiment de base là-dedans. T'sais, j'ai la même base que tout le monde, un peu, on comprend là, les clichés les plus évidents là, de Bollywood, t'sais, les danses, puis tout ça, les costumes colorés, puis tout ça. Mais ça, c'est quelque chose qui t'arrive, tu sais, qui a tout le temps existé, évidemment, mais je pense que le cinéma indien, tout comme le cinéma de partout dans le monde, à un moment donné, s'est rendu compte aussi, shit, les films qu'ils font en Amérique, c'est très commercial, c'est très cool, on devrait essayer de faire ça. Fait que Shan, tu sais, c'est un peu calqué sur un James Bond, mais en même temps, vu que ça dure 2h46, c'est calqué sur tout ce qui existe.
Ouais, ouais, il y a beaucoup d'affaires là-dedans.
Mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai vu ça, c'est comme le James Bond de l'Inde de cette époque-là, tu sais, de l'époque... Il appelait ça... Sur Letterboxd, il y a beaucoup de monde qui appelait ça des films style Masala, mais je sais pas pourquoi. Je trouve... Ça devait être comme un spaghetti western, genre. Ça devait être l'équivalent de ça, tu sais. Quand tout le monde a commencé à faire des films de genre, tu sais, ça allait avec la bouffe. Je sais pas, le monde appelait ça Masala style. Mm-hmm. Fait que ça doit être comme spaghetti style.
Ouais, j'aimerais ça savoir la vraie terminologie de ça, parce que sinon, on a juste l'air de des jambons qui est comme, hey, on va nommer ça de leur bouffe.
Ben, tu vois, j'espère que c'est pas ça, mais les gens qui appelaient ça comme ça sur Letterboxd, certains semblaient être indiens. Mm-hmm. Fait que je veux pas m'avancer trop. Ça me semble effectivement comme une affaire que des hosties de jambon blanc inventeraient. J'ai pas assez fait de recherche et on va passer à un autre sujet.
Ouais, oui, passons à un autre sujet. Mais regarde-moi aussi. Ce que je trouve intéressant. Mais en fait, on peut aussi en venir là, vu que tu parlais. Comment tu as trouvé le film?
Moi, j'ai quand même vraiment aimé ça. Mm-hmm. C'est extrêmement. Comment dire? Tu sais. Il y a ben trop d'affaires qui se passent dans ce film-là. Là. Pour vrai, là, ça a aucun crise de sens. Puis ça, je pense que c'est aussi une affaire, tu sais. Je pense que la TV, c'était pas autant populaire en Inde que le cinéma, dans le sens que, tu sais, je pense que, vu la situation économique, là, comment le monde vivait à l'époque dans les grosses villes, c'était pas tout le temps évident d'avoir une TV chez vous. Mais tu sais, le cinéma, il roule au coin de la rue. Tu peux aller au cinéma à la place de t'organiser vraiment une TV, tout ça. Fait que, je pense qu'en partie, le cinéma, puis c'est comme ça dans plusieurs pays, puis c'était comme ça un peu même au début de la TV, tu sais, le cinéma faisait ce que la TV fait maintenant. Puis il y a comme une saison de TV entière dans la chaîne.
Ouais, ouais, c'est une affaire, il y a vraiment plusieurs storylines, tu sais, t'as les deux frères, Tapon, ils ont des crosses, puis ça c'est des trucs policiers drôles. Quand t'es avec le frère, ouais. Ça, c'est vraiment du...
Plus strict, c'est comme du Clint Eastwood.
Ouais, ouais, là, c'est genre. Du Dirty Harry, tu sais, assez à côté, vraiment badass. Puis après, quand tu rencontres Chacal, qui est le méchant,
ouais.
Chacal qui est Blofeld des films de...
ouais.
Chacal qui est Blofeld des films de James Bond, là, t'as de l'intrigue James Bondienne. Puis toutes ouais. ces affaires-là se tissent ensemble et se rencontrent. Moi aussi, j'ai bien aimé ça, cependant... C'était je sais que ces films-là sont vraiment longs, mais c'était comme trop long pour que je puisse vraiment, vraiment capoter, parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nice, il y avait de 7 à 10 minutes d'affaires
ouais.
qui étaient comme un tampon entre ces trucs-là que... J'étais comme, ah non, là, ça s'en vient, une corvée. Puis là, j'étais comme, oh non, il y a une affaire cool. Il y a un number musical qui a du swag. Ou t'as des ouais. malfrats qui sont habillés, qui ont, qui, qui, encore là, que je verrais les autres, qui sont swaggés en tabarnak. Il y a tout le temps quelque chose, c'est juste que là, ça fait « Ah non, un autre 10 minutes à être dans cette scène-là, là, mais sinon, j'ai bien aimé ça. » Tu sais, je trouve que les bouts, tout ce qu'il y a de l'action, l'action est tout de même, tu sais, c'est pas des chorégraphies de malade, mais c'est filmé de façon, avec juste assez de torque pour des comédiens qui sont pas Jackie Chan, tu sais. Y a des scènes dramatiques, tu sais, il y a une scène d'enterrement à un moment donné, tout le monde est en blanc, le ciel est rouge, la caméra panne vers une seule personne qui est habillée en noir au funérailles.
La scène d'enterrement, c'est pas juste un enterrement, il brûle le corps. C'est comme un Viking funeral. Ils sont autour du corps, du dos, en feu, tout habillé en genre de soude de lin. Puis dans le background, à côté d'un arbre tout fucké, il y a un gars habillé tout en noir qui est comme « j'ai besoin de vous parler ».
Tu sais, ça là, c'est vraiment comme « fucking sick ». Tu sais, puis le film est rempli de ces moments-là et de touches comme ça, mais faut presser l'accordéon, tu sais. Mais tout ça me fait penser, par exemple, souvent, quand j'aimais ça, je pouvais, vu qu'il passe à Crave à l'occasion, j'étais pas capable de passer comment, que ça, c'est essentiellement, c'est Hobbs and Shaw, mais en meilleur.
Ouais.
C'est comme le bon Hobbs and Shaw. Parce que, tu sais, il y a des gros bouts comme de cross qui sont comédies grosses comme le bras. Puis là, je suis comme, ah, ça, c'est comme Ryan Reynolds ou Kevin Hart qui se pointe dans Hobbs and Shaw, mais j'ai pas le goût de pitcher ma TV dans le mur, par exemple. Je trouve juste ça comme charmant parce que c'est une autre affaire. Fait que, puis tout ça, ça m'a fait penser à comment les gros films hollywoodiens voyagent plus que jamais parce que, puis ils ont peut-être pris des cues de justement de Bollywood ou de ces films-là, parce que tu sais, les films de Marvel, ils ont beaucoup d'action dedans, mais ils ont aussi beaucoup de comédie dedans, tu sais, puis comment que c'est, peut-être que le plan de base du gros blockbuster qui existe maintenant, que tu sais, il y a de l'humour dedans, puis il y a de l'action, puis il y a ci, puis il y a ça, qui s'est tout de même vraiment rodé. Quelque part, peut-être que ça vient de ces films-là, de ce genre de films-là, puis c'est comme ça que ces films-là hollywoodiens sont maintenant capables vraiment de... T'sais, ils ont toujours voyagé de par le monde, mais là, ils sont encore plus capables de le faire. T'sais, ils ont pris ce morceau-là de Bollywood. Là.
Ouais. Ben tu sais, comme tu dis, là, mettons, moi, ce que j'ai vraiment aimé le plus, c'est l'excès. C'est à chaque fois quelque chose qui avance, tu fais « Oh, tabarnak! » Tu sais, comme là, à un moment donné, il y a un personnage, OK, qui est Abdul, qui est comme un gars, tu sais, un genre de informant, là, comme il y a dans des films policiers, tu sais, un gars qui est sur la rue, tu sais, c'est un gars qui, je pense qu'il est supposé avoir pas de jambes, même si on voit ses jambes, mais il se promène en roulant ses fesses sur un skate. Puis, là, ils sont comme « il faut aller voir Abdul. » Puis là, Abdul, il y a une toune de genre 8 minutes où il se promène dans la rue, puis là, il est comme « C'est moi, Abdul, je vois tout. » Tu sais, c'est vraiment pas nécessaire, là. Tu sais, c'est un personnage que dans un Hobbs and Shaw, ça serait peut-être un acteur style Alan Tudyk ou quelque chose de même, là, tu sais. Puis là, ils sont comme « Ah, check, c'est ce gars-là. » Puis là, c'est un... Tu sais, mettons, il va dans une taverne, puis là, il y a un gars crotté avec une longue barbe, puis là, il dit « OK, viens avec moi. » Puis là, en dessous, dans la cave de la taverne, là, finalement, c'est un hideout, puis là, là-bas, il y a des guns, mettons, tu sais. C'est Ian McShane dans John Wick, là, mettons. Mais dans Shan, c'est genre... Hey, c'est un nouveau personnage! Check! Là, il y a une longue toune. Tu sais, c'est super. Tout est excessif. Puis j'étais comme. Tu sais, l'idée de penser, je pense que souvent quand on regarde des films de même, puis ça vient d'une culture qu'on connaît pas, qu'on n'était pas dedans, donc on n'a pas les référents, mettons, pour des blagues ou des caméos. Mettons, l'équivalent de Michel Richard serait dans Chan, je saurais pas.
Ouais.
On a tendance à penser à ce genre, c'est Keten, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ce que j'ai vraiment aimé de Chan, c'est genre, ce film-là, c'est qu'est-ce qu'il fait en tabarnak. C'est genre, ça prend des choses. Dans un film, il y a des choses qui arrivent. En veux-tu des choses, tabarnak? Non, voilà. Toutes les choses possibles. J'ai vraiment trouvé ça. C'est vrai que c'est fucking long, puis il y a des bouts qui sont plates, surtout vers la fin. Ça finit un peu en queue de poisson, là, t'sais, considérant à quel point ça... Ça gaule, là. Ben, en fait, non, ça gaule pas. T'sais, c'est ça que, tu sais, on parle souvent des films qui gaulent. Shan, ça gaule pas partout. Ça anti-gaule. Mais il y a tout le temps du stuff qui se passe, mais souvent ça sert à rien.
mais dis-tu, tu parles justement de la scène qui nous présente Abdul. Ça, c'est quelque chose que j'ai aimé parce que c'est ça, c'est. Regarde, c'est, mon problème dans le fond, c'est que ça, il y a des tunes de 8 minutes, il pourrait être 3. <Ouais. rire> 3 minutes, ça serait correct. Mais tu sais, Abdul qui est sur son roulis roulant, puis tu sais, ça raconte comment qu'il est. Il est considéré en dessous des autres, mais lui qui roule au roll-sol, c'est comme ça qu'il voit tout le underworld de la ville puis tout ça. Tu sais, c'est très... justement, tu sais, c'est très Disney animé d'une toune qui explique un personnage. Puis, je trouve que présenter l'informateur dans un thriller policier comme ça, je trouvais ça cool en tabarnak. Surtout que, tu sais, Abdul, il y a une toune de 8 minutes puis tu le revois comme juste 3 autres fois dans le film. Il est comme pas là tant que ça. Fait que j'étais comme, ah, juste nous faire un download d'Abdul, c'est nice en Chris. Fait que, en effet, moi, dans le fond, je pense que t'as vraiment bien souligné ça. C'est ces touches d'excès-là qui sont vraiment rafraîchissantes, puis qui sont bien, mais encore là, moi, j'ai eu ben de la misère à la longueur, mais à chaque fois que je suis comme, il venait tout le temps me rechercher, tu sais. Il venait tout le temps avec, tu sais, il y a des scènes... qui parlent toutes dans la maison, puis tu sais, c'est soit la femme du frère qui est mort, ou la caméra fait juste tourner autour d'eux autres, puis c'est vraiment simple comme mouvement de caméra, mais ça rend tout ça super dynamique, puis là, j'étais comme, ah ouais, là, je trouvais ça vraiment excitant. Encore là, tu sais, je trouvais que ça avait une torque, que ben des films qui essayent de faire la même chose en Amérique du Nord, disons moderne, pourraient en profiter, pourraient avoir dedans. Ça me donne vraiment le goût d'écouter, cependant, une version moderne de ce genre de film-là. C'est comme le Shan, mettons, de 2015, tu sais, ou 2019, de quoi il a l'air.
Ben là, ils ont plus, tu sais, je veux dire, l'affaire aussi, c'est... T'sais, l'Inde, c'est pas le pays le plus permissif du monde. Là, il y a beaucoup de censure quand même. T'sais, tu peux pas juste faire... Il y a pas de Gaspard Noé en Inde, là, mettons. Mais là, ils ont commencé à faire des films. Il y en a... À Fantasia, il y en a presque chaque année. Là, cette année, il y a un peu plus petit Fantasia, mais... Faudrait que je te trouve le nom du réalisateur. Juste un instant. Réalisateur... Ah oui, c'est ça. Anurag Kashyap. Lui, il fait des films de crimes d'action, des affaires dark. Là, c'est un peu comme, je dirais, un peu David Fincher-esque, là, de ce que j'ai vu, genre. Puis, ça, c'est dark, hein, parce que, genre, mettons, t'enlèves les tunes, puis toutes ces affaires-là, mais tu gardes, mettons, c'est long, puis c'est super complexe, puis il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Puis, en plus, c'est fucking dark et déplaisant et déprimant, tu sais. Il y en a une couple de ces films que j'ai vu d'Anurag Kashyap, puis j'étais vraiment comme... impressionné. Puis tu sais, ça c'est prendre un peu justement cette idée-là, là, tu sais, de un film de genre mais multigenre un peu qui va partout, puis rendre ça juste dark, là, tu sais, comme le film que j'avais vu, ça s'appelait Ugly. Puis là, je sais aussi qu'il y a un style long film qui s'appelle Gangs of Wassepur qui dure 321 minutes.
Oh, Chris.
Ça c'est long, hein, Chris. Fait que j'aimerais peut-être un jour, là vu qu'on est confiné, si on regardera Gangs of Wassepur. Mais ça, il était sur Netflix pendant.
Faudrait qu'on fasse un genre de journal que après chaque 45 minutes ou chaque heure, on enregistre un petit bout des voyeurs comme qu'on part à travers Gangs of Wassepur ou quelque chose comme ça. Faudrait faire du movie journaling comme ça, je pense que ça pourrait être bon. Mais tu sais, sinon, malgré tout ça, ben justement, j'aimerais ça, tu sais, je sais qu'ils ont pendant un bout aussi, il y avait comme des films super-héros-esques sur Netflix aussi de Bollywood. Ça, je serais intéressé d'en regarder ça. Puis j'en avais vu un il y a une dizaine d'années qui s'appelait Enderan, qui c'était comme un genre de, tu sais, inspecteur gadget. Personnage style inspecteur gadget, que ça aussi, ça devenait des grosses scènes d'action, mais en même temps... avec des belles... Je me rappelle qu'il y a une des sections musicales que le méchant qui est un genre d'inspecteur gadget, essaye de séduire la fille, puis s'il parle, puis il y a comme des panthères robots à ses côtés alors qu'il lui chante la pomme. C'était de toute beauté, malgré que ça, c'était aussi un gros 3 heures. Mais j'ai tout de même aimé ça. C'est juste que je serais prêt à en écouter des plus modernes, mais d'ordiper à l'occasion pour... Parce que, encore là, la couleur, l'exubérance de ces films-là me plaît. Il y a une scène que tu vois les sbires de Chacal qui sont dans un building, sont habillés en blanc aussi, encore avec tout dans l'in. Puis, il y a l'extérieur dehors qui est comme un green screen. Puis tu vois la ville bleue dehors, mais les couleurs sont tellement pétantes que même si l'image est irréelle, elle reste belle pareil. Puis je regarde ça, je me dis, Chris, ça c'est beau, là. Ça a de la gueule, là. Tu m'entends-tu? T'es-tu là? Allô?
Je t'entends plus là. Ah oui, allô, ok. Parle, voir.
Oh yeah, allô? Ok, ouais, ça a craché. Okay, hey, bon. Le zoom a craché aussi, on a fait 3 verres tantôt, fait que en tout cas. Bref.
Ah ouais, crise de zoom, ça, le monde, il sait, zoom, c'est qu'on est revenu.
On a besoin de plus que jamais là, pour poder, là, c'est. Ben fait que, ouais, c'est ça. Aimé ça malgré la durée. Fait que, mettons que vous êtes un vendredi soir là, ou un après-midi de week-end, ou peu importe votre situation de job, vu que vous êtes confiné, là, peut-être que.
Un mardi matin, comme
ouais, on c'est ça. C'est partez-vous, Sean, puis vivez. Vivez. Faites-nous ouvrir une pizza, écoutez Sean. Puis laissez-vous baigner dans l'atmosphère du cinéma commercial, d'ailleurs. Je veux dire, si on est pour écouter plein de cinéma commercial d'Amérique du Nord, aussi bien samplé, ça va. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on devrait essayer de faire plus souvent à l'émission, justement. Le cinéma commercial, d'ailleurs, c'est une affaire qui m'intéresse pas mal.
Ouais, ben là, je sais pas, j'en ai parlé une couple de semaines, mais je suis devenu vraiment parmé sur les comédies horny italiennes. J'en ai pas vraiment regardé encore, mais genre juste me promener à travers les posters, là, j'étais vraiment excité de regarder des films horny de 1978, là, de comme un dude avec les yeux trop proches qui tombe les fesses premiers dans un ciel de l'air. ça a vraiment l'air... tu sais, c'est ça. Je trouve ça quand même fascinant parce que je pense qu'on en parle beaucoup des affaires qui sont dans le canon, tu sais, en tant que tel, tu sais, comme... Un film italien, tu vas regarder Antonioni, tu vas regarder, tu sais, whatever, là, Suspiria, tout ça, mais tu sais, de savoir aussi qu'il y a comme 150 films avec un petit gros qui ressemble à Danny DeVito qui était la personne la mieux payée en Italie, genre, puis personne ne regarde ces films-là, tu sais, je trouve ça quand même intéressant. Fait que. En tout cas, ouais, c'est ça, je pense que dans le futur, on va peut-être s'approcher vers ça, mais là, Yannick, je voulais parler, là, on arrive au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, c'est le mois de l'horreur. Oui. Le mois de l'épouvante. Mm-hmm. C'est le choctobre.
Choctobre, oui.
Oui, donc, on n'en a pas vraiment parlé ouvertement, mais est-ce qu'on devrait se focusser sur des films d'horreur pendant choctobre?
Je pense que parler de films d'horreur, puis de films où... horreur ou Halloween-esque, je pense que c'est une bonne idée. Je pense on va demander ça à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous qu'on parle plus d'horreur ou de films que vous considérez Halloween-esque? Je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Je cherche toujours à raffermir ma culture de films d'horreur, alors pourquoi pas? Je suis très partant. Ouais,
moi, j'ai l'intention, tu sais, il y a beaucoup de monde qui font ça, juste regarder des films d'horreur pendant le mois d'octobre. Moi, j'ai jamais fait ça en partie parce que depuis les 6 dernières années, j'ai d'autres films à regarder tout le temps pour la job. Mais là, on dirait que ça ne sera pas le cas. Il va y avoir très peu d'autres films à regarder. Fait que je pense que moi et Marie-Lise, on va essayer de regarder le plus possible des films d'horreur quand on regarde des films ensemble. Là. Fait que de toute façon, ça s'enlignait pour que moi, je parle majoritairement de films d'horreur au mois d'octobre. Fait que, tu sais, peut-être que justement, si déjà mes deux films sont des films d'horreur, peut-être que c'est pas nécessaire que le film de la semaine soit un film d'horreur. Il va y avoir des sorties aussi, genre j'imagine sur Netflix, mm-hmm. tout ça. Faut qu'on parle de Hubie Halloween.
Ben oui, il faut parler de Hubie Halloween. On va avoir un nouveau film d'Aaron Sorkin. Puis Fincher, là, The Mank, là, ça sort quand? Là, ça sort ça?
Je pense en novembre.
En novembre, ok. Va on va être correct pour ça. Mais là, vu qu'on est en train de planifier le reste de l'émission à l'antenne, je pense que ça veut dire que c'est temps de terminer.
Oui.
c'est temps de terminer. Alors... chers amis, comme d'habitude, dites-nous, on veut de vos nouvelles, quel genre de film vous aimeriez mm-hmm. qu'on parle de par l'émission. Mais en attendant, Alex, les gens, ils peuvent voir tes opinions et tes autres choses où?
Oui, Why Does It Exist sur Instagram et sur Letterboxd. C'est Alex Rose avec deux petites barres en dessous sur Twitter. Il faut aller sur Cult Montreal pour lire ce que j'ai à dire. Là, il y a ostensiblement une version papier du cult qui sort cette semaine, avec des articles de films qui ne sortiront pas ce mois-ci, mais en tout cas, vous pouvez aller les lire quand même, là, ça va être exclusif, parce que d'habitude, ils sortent en version papier, puis après ça, en ligne. Mais là, les versions en ligne ne vont peut-être jamais sortir, fait que vous détenez peut-être un exclusif pour au moins jusqu'au mois de novembre. Là. Fait que, écoute, c'est incroyable.
Puis pour ma part, moi, c'est Adrien Belzile sur Instagram ainsi que sur Letterboxd. Aussi, j'aimerais ça vous dire que c'est ça. Si vous aimez l'émission, j'assume que vous êtes peut-être un auditeur de Trois-Bières, mais si vous ne l'êtes pas, les voyeurs de vue sont disponibles grâce au Patreon de Trois-Bières. Alors, si vous souhaitez avoir le podcast direct dans votre machine à podcast, vous pouvez le faire en nous encourageant au patreon.com/Trois-Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, regardez des vues. Yeah.